C'est pas faux.
That's like not being on Facebook.
I'm not on Facebook.
You're so fucking classy.
Where is Jessica Hyde?
So there's two ways this could go, Precious. Kick or kiss. They both in the same. With my dick up your ass.
Like, there's this guy who invented this car that runs on water, man. It's got a fiberglass air-cooled engine and it runs on water.
Shut up. Shut up, guys. Shut up.
Please
shut up.
Stop.
Shut up. 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 Shut up.
Allez, je te laisse chez les crocs.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, la saison 2, l'épisode 25, c'est ce soir. On va vous parler rêve et réalité, mais avant tout cela, avec Aurore que j'accueille. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Nous allons donc revoir, comme à notre habitude, quelques pilotes revus par Aurore cette semaine.
Oui, et on va commencer par une comédie de la Fox qui s'appelle The Last Man on Earth. Le dernier homme sur Terre, donc.
Ouais.
Et cette série porte bien son nom, puisqu'il s'agit en effet de nous plonger dans la...
Bah, elle porte bien son nom, porte bien son nom. Oui,
oui.
On ne peut pas
d'accord,
en dire, mais... voilà.
Oui, non, de toute façon, il faudra en dire pour pouvoir la critiquer.
Mais... c'est vrai qu'on en a déjà parlé un peu avant et on n'arrive pas sur une conclusion très positive. Mais bon, dis-moi.
Il s'agit donc d'un type qui est seul. La Terre a manifestement été désertée. Et donc, tout le début de la série consiste à le voir passer d'état en état et de tous les barrer sur sa carte des États-Unis parce que il n'a trouvé personne dans aucun de tous ces états-là et donc il finit par rentrer chez lui, c'est-à-dire à Tucson, pour vivre seul. Voilà, ça donc c'est le départ. Le départ, ça correspond très bien à ce que le trailer nous avait laissé entendre que ce serait il y a quelques mois quand on l'avait vu apparaître. Et c'est vrai que c'est plutôt amusant. C'est pas d'une originalité folle, mais c'est plutôt drôle à regarder. Et en plus, on se dit, oui, ça peut être une métaphore de la solitude de l'homme moderne, pourquoi pas. Tu te fais jamais ce genre de réflexion?
Non, mais bon, déjà pour la métaphore en elle-même, déjà je vivrais déjà pas comme lui, hein.
Oui.
Voilà, on peut en arriver dans ces détails-là tout de suite. Moi, en tant qu'homme seul sur la planète, je ne ferai pas ce qu'il fait. Voilà.
Mais malgré tout, il s'est quand même choisi une belle maison.
Bah, pour une fois, par rapport à The Walking Dead, il s'est choisi une belle maison. Bon, il s'est une petite collection là, d'œuvres d'art et ce genre de choses. Mais voilà, ça se transforme très vite en dépotoir. Et je ne crois pas que je m'autoriserais, ou au minimum, je déménagerais. Enfin, tu vois, mais là, il a l'air de survivre dans son tas d'immondices. Et...
oui, ça, c'est le seul truc qu'on ne comprend pas bien. Mais ça se justifie uniquement par la suite. Et c'est là que le bas blesse.
Voilà.
Pour moi, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en a été pour toi.
Bon, mon aspect, allez, ma réflexion autour de ce dont tu vas parler là tout de suite était moins marquée. Je passais un bon moment de divertissement, mais c'est vrai que faire cette apologie de la femme qui va débarquer dans la série, en gros, et en faire cette espèce de demi-folle qui range tout le temps, qui ne s'en sort pas pour bricoler, qui, enfin, en gros, tous les stéréotypes sont résumés en quelques minutes.
Oui, c'est assez affligeant, je trouve, parce que le problème, c'est que quand on a un propos où on est le dernier homme sur Terre et que tout à coup débarque la dernière femme sur Terre, Mais malheureusement, ils sont un peu les représentants de l'homme et de la femme, quoi. C'est un petit peu Adam et Ève renouvelés. Et le problème, c'est que en gros, tous les gros stéréotypes qu'on peut avoir sur les genres sont représentés. C'est-à-dire que lui est sale, il est bourru, il est obsédé sexuel, il n'a absolument aucune ambition, il est totalement puéril. Et elle est totalement maniaque, obsédée du rangement. Complètement folle aussi, illogique dans sa manière de réfléchir. Par exemple, à un moment, ils vont au supermarché, et ils se garent sur la place handicapée qui est la plus proche de la porte, et elle refuse de sortir tout simplement parce qu'on ne se gare pas sur une place handicapée. Ce qui, il faut l'avouer, est totalement débile et assez énervant. Voilà.
Quand on est les derniers survivants sur la planète, il n'y a pas grand monde qui peut venir prendre la place. Mais bon, oui, voilà, on en avait discuté. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il s'est un peu limite. Maintenant, moi, ça faisait partie d'un épisode, en tout cas, le deuxième, je pense. Mm-hmm, là-dessus qu'on s'est un peu concentré. Bah, j'ai envie de dire, ok, ils ont fait leur erreur là. Est-ce que maintenant le récit va néanmoins quand même évoluer vers quelque chose de mieux ? Ça, je n'en sais rien.
Écoute.
Parce que si ça tourne autour que de ça.
J'ai un peu peur que ça tourne principalement autour de ça. Et j'ai envie de dire, je peux comprendre le principe. Le but, c'est de fait de montrer. Enfin, si c'était un couple qui était bien assorti et qui s'entendait bien, ça ne poserait, il y aurait pas vraiment d'intrigue, quoi. Il y aurait pas de peps à l'histoire et ça s'arrêterait là. Là, évidemment, le fait qu'ils soient les derniers sur Terre et qu'ils soient aussi mal assortis,
oui.
conduit évidemment à ce que on puisse avoir énormément de sujets à traiter. Le problème, c'est que ils auraient pu être très mal assortis sans pour autant remplir autant les stéréotypes de genre, quoi. C'est plus là que ça me dérange. Par exemple, le fait que à un moment, elle veut bricoler pour pouvoir avoir de l'eau courante et tout ce qu'on la voit faire, c'est taper avec un marteau sur une bouche d'égout. Ouais. C'est un petit peu...
C'est réducteur.
Un petit
hein.
peu limite, je ouais. trouve. Donc voilà, en tant que représentante de la gente féminine, même si, oui. heureusement pour moi, je ne suis pas la seule encore qui reste sur Terre, mais j'ai été un petit peu désespérée de voir ça, quoi.
Ok, bon, on verra. Est-ce que tu nous donneras une chance d'en voir un épisode supplémentaire ?
Mais écoute, j'ai déjà commencé l'épisode 3 et ça commence pas bien, je te le dis tout de suite.
Bon, ok. on verra plus tard, on vous en dira plus certainement dans les prochains épisodes. Alors, un autre petit pilote à revoir.
Alors, deuxième pilote, il s'agit cette fois-ci d'une série Netflix, encore une fois une comédie qui s'appelle Unbreakable Kimmy Schmidt. C'est la nouvelle série de notamment signée par Tina Fey qui était également derrière 30 Rock. Ça part plutôt avec de bons a priori de la part de la critique. Mm-hmm. Il s'agira ici de suivre Kimmy Schmidt qui a vécu depuis des années dans un bunker sous la terre avec quelques autres femmes parce que leur gourou leur avait dit que la terre avait été entièrement détruite et qu'elles étaient obligées de vivre là. L'armée vient les délivrer et donc elles se retrouvent... Premièrement, à se rendre compte que la Terre n'avait pas été détruite, et puis à devoir décider quoi faire de leur vie. Toutes les autres femmes décident, elles, de rentrer dans leur état. Et elle est la seule, alors qu'elles étaient à New York pour pouvoir participer à des émissions de talk show, etc. Elle est la seule à vouloir rester à New York et à vouloir un petit peu découvrir qui elle est et faire sa vie là-bas. J'ai vu 3 épisodes jusqu'à présent.
Moi, je peux pas t'aider, j'ai rien vu de cette série, à part 2-3 images, à mon avis.
Oui, c'est mignon, c'est amusant.
Mignon.
J'imagine que pour ceux qui sont fans de 30 Rock, ils vont y retrouver beaucoup de l'esprit. parce que de fait, j'ai l'impression qu'on y reconnaît fort l'esprit très. On a d'un côté la naïveté de la personne qui vient de d'ailleurs aux États-Unis, du fin fond des États-Unis, qui arrive dans la grande ville New York, qui est plein de rêves, plein d'idéaux, plein d'espoirs, et qui tout à coup va être un peu confronté à la réalité brute. Mais voilà, moi comme 30 Rock, j'avais jamais vraiment plus aimé que ça. Mais c'est un petit peu la même chose pour.
C'est
pour cette série-ci, c'est mignon,
mauvais.
C'est pas du tout mauvais, mais ça ne me fait pas rire, voilà.
Voilà.
C'est probablement juste une question d'humour,
ouais.
On n'a pas le même humour, et donc ça marchera sur d'autres, mais pas sur moi.
Tous les goûts sont dans la nature.
Voilà.
Un dernier petit pilote peut-être ?
Dernier pilote qui explique le sujet de cette semaine. Il s'agit de Battle Creek, qui est cette fois-ci une série CBS. Il s'agit d'un cop show. Alors c'est une série que j'attendais avec impatience. Pourquoi ? Parce que c'est une série créée par Vince Gilligan, donc le créateur de Breaking Bad, et David Shore, le créateur de Dr. House.
Okay.
Donc tu peux déjà imaginer à quel point j'étais toute folle en attendant ce pilote-là. Le début est plutôt chouette. Le début du pilote est plutôt chouette et on se dit ça a l'air intéressant. Et puis très vite on se rend compte quand même que on va avoir affaire à un cop show un peu traditionnel.
C'est ça, un peu standard dans la forme.
Donc on peut être un petit peu déçu, un peu décontenancé. On s'attendait peut-être à avoir un Breaking Bad bis. Et puis finalement, non, on a deux flics très mal assortis qui vont devoir mener des enquêtes unitaires à chaque épisode. En tout cas, on peut l'imaginer de ce qui ressort du pilote. En l'occurrence, les deux flics, il s'agit d'un côté d'un flic à l'ancienne de petite ville qui n'a pas de moyens et qui vraiment doit galérer pour réussir à faire son métier. Et puis, on va avoir le jeune et beau fringant représentant du FBI qui s'installe dans cette petite ville-là avec des moyens colossaux par rapport à ceux dont dispose la police locale et qui tout réussit. Non seulement il a les moyens, mais en plus, il a manifestement un charisme naturel qui fait que autant les collègues que les témoins l'écoutent et font ce qu'il dit de manière assez naturelle. Donc évidemment, ça va avoir de quoi énerver énormément le flic local, qui est un bon flic, mais qui s'en prend un petit peu plein la figure parce qu'il se rend compte que il galère pour réussir à faire un minimum et finalement il a presque moins de résultats que l'autre à qui tout est donné quasiment. Donc voilà, je vais probablement expliquer un petit peu plus après ce qu'il en est du propos, mais pour vous dire ce que j'en pense, après la première phase où je me suis dit « Ah, ça a l'air chouette », la deuxième phase où je me suis dit « Moi, quand même, c'est fort traditionnel, ça a l'air un petit peu basique », ma troisième et dernière impression cette fois-ci, ça va être de dire « Ah, il y a un vrai propos derrière, un propos que je vois rarement dans les séries, que je trouve intéressant. Et c'est justement sur ce propos que va porter tout l'ensemble de cet épisode-ci.
Oui.
Donc, je vous propose de le développer par la suite.
Bon, on va en gros faire une pause, hein, parce que l'intro fut longue. Musique, qu'est-ce que nous avons ?
Nous avons Alt-J avec Fitz Pleasure, entendu dans Weeds. Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la 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 la
comme j'ai plaidé. Deep greeting, googling every corner.
Il est grand temps de développer le sujet du jour, rêve et réalité. Oh, j'ai voulu te poser un peu des questions avant l'émission. Tu m'as dit non, c'est trop compliqué, tu vas comprendre ça au cours d'émission. Bah, donc je vais faire comme l'auditeur, je vais tenter de comprendre ce que tu nous racontes aujourd'hui.
Oui, ben voilà. Donc je reviens sur Battle Creek. Dans Battle Creek, donc on va avoir deux représentants de deux manières de voir le monde très très différentes.
Ouais.
On a le flic traditionnel qui est en plein dans ancré dans le réel, dans les emmerdes, et qui donc est très désabusé également sur le monde. Quelque part, on aurait tendance à dire qu'il a acquis une intelligence de la rue, une intelligence du terrain, qui fait de lui un bon flic, tu vois. Et on a
tu l'aimes déjà bien celui-là, je le vois rien que quand tu en parles.
Oui,
c'est ton préféré des deux.
C'est pas faux.
Voilà.
C'est pas faux. Alors donc on a d'un côté ce type là qui représente quand même un type de flic assez traditionnel qu'on voit régulièrement dans des fictions.
Mmh.
Et puis on a l'autre type qui est plein de principes, qui est presque un idéaliste, mais qui en même temps semble n'avoir jamais véritablement eu à subir les déceptions et les désillusions que peuvent apporter la confrontation avec le monde réel. Mais en même temps, tout lui réussit, donc c'est normal. On peut constater qu'il y a quand même beaucoup de séries dans lesquelles cette confrontation entre rêve et réalité, qui est ici identifiée par deux personnages, mais généralement ça n'est pas aussi clair, est assez fréquente dans les séries. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. La première forme, ce sera par exemple le fait que les apparences sont trompeuses. Par exemple, dans un Desperate Housewives, qui en est le représentant le plus évident, on a l'apparence de la famille parfaite, et derrière les murs de ces différentes familles parfaites, on a à chaque fois des drames intimes qui peuvent se dérouler.
Ouais.
On a aussi sur le ton de la dépression. Par exemple, dans The Sopranos, on a l'idéal quelque part de l'homme tel qu'il devrait être, du grand bandit mafieux tel qu'il devrait être, qui est impassible, fort, etc., qui ne montre pas ses émotions. Et puis, on a Tony Soprano qui arrive mal à gérer tout ça et qui quelque part est en dépression, notamment, c'est comme ça qu'il l'explique aussi, parce que il aimerait bien être le type silencieux, mais que le réel le rattrape, quoi. Il n'y arrive pas.
Mmh.
On a aussi dans un grand nombre de séries, et ici ce sont plus souvent des comédies, mais pas que, la difficulté à réaliser ses rêves ou à réaliser quoi que ce soit, un plan ou ce qu'on veut faire. Par exemple, dans VIP, la vice-présidente se retrouve sans arrêt confrontée à la réalité du terrain qui lui dit « Non, je sais bien que tes idéaux politiques voudraient que tu puisses réaliser ça, mais à chaque fois, ce qu'elle réussit véritablement est beaucoup moins glorieux que l'idéal. » De même dans Silicon Valley ou dans Épisode, où à chaque fois c'est un petit peu le thème de la série. On a ce que dans leur tête les créateurs, les idéalistes aimeraient bien qu'il arrive, et puis ce qu'il advient en vérité une fois qu'on a été confronté à toutes les contraintes de la vie réelle.
Mais voilà, mais justement, c'est ce que j'ai envie de dire, tu utilises les bons mots. C'est vraiment en miroir de la vie réelle, en fait.
Oui, c'est ça. C'est vraiment une manière de montrer à quel point il faut à un moment se confronter à une série de contraintes, et que si on n'y passe pas par là, de toute façon, on ne réalise rien du tout.
Mmh.
On peut aussi penser à Smash, qui était la représentation de la création d'une comédie musicale, lui, à Broadway, et puis, au final, à quel point ça pouvait être difficile de la réaliser dans les faits. Je mettrais aussi, alors tu vas peut-être discuter, Breaking Bad là-dedans, parce qu'à chaque fois il y a le plan. Non, à chaque fois il y a le plan que lui se fait dans sa tête de comment il va réaliser, et puis il y a toujours bien un truc qui foire à un moment donné dans le plan et qui fait qu'au dernier moment il faut trouver une petite pièce à mettre au trou pour que le plan finisse quand même par fonctionner. Même si souvent, ça va mener à des problèmes plus grands, notamment éthiques. Hein.
Notamment éthiques, et puis des situations ridicules aussi. Mais dans ce cadre-là, alors tu peux mettre énormément de séries télévisées. Enfin, tu vois, ça fait partie des embûches. S'il n'y en avait pas dans un récit, ce serait complètement...
Oui, mais c'est, malgré tout, tu peux imaginer, par exemple, mets en parallèle Walter White et... comment il s'appelait encore ça y est, je l'ai oublié. MacGyver, voilà. Il réussissait tout, MacGyver.
Oui, et là, ton rapport entre la réalité et le rêve, excuse-moi, il s'inverse.
Mais oui, mais justement, c'est bien ce que je dis. On est actuellement dans un moment des séries où on a un besoin, une volonté de représenter la manière dont on est ancré dans la réalité. Tu vois, beaucoup plus qu'avant, où justement on pouvait nous présenter
des trucs
totalement fantasmés.
Okay. Parfait.
On a aussi une confrontation entre l'image qu'on se fait de soi et puis l'image que les autres nous renvoient de nous. C'est par exemple le cas dans Curb Your Enthusiasm ou dans Platane, qu'on pourrait estimer être la version française du même propos. Dans Girls aussi, entre l'image qu'elle se fait de son travail artistique et puis ce qui arrive en réalité et qui est rarement très glorieux. Et puis encore une fois aussi dans Breaking Bad, parce que lui, il vit un petit peu un trip où il se vit comme un badass, et puis dans la réalité, sa famille le voit plutôt comme un monstre et un criminel et rien d'autre, quoi. Mmh. On a aussi entre les idéaux et leur exécution, par exemple dans The Wire, notamment dans la saison 3, dans laquelle il y a la création de Amsterdam, le quartier idéal entre guillemets où la drogue est en libre
légalisée, plus enfin pas légalisée, mais oui, on peut en vendre et en consommer.
Et on voit à quel point ça peut être compliqué de réaliser des idées qui peuvent paraître bonnes, mais qui au final peuvent mener à des catastrophes. Également dans Masters of Sex, où ils ont une idée très très claire, très très objective de la manière dont ils vont pouvoir observer la sexualité, et puis au final, ils sont confrontés au fait que parfois ça peut mener aussi à tomber amoureux. Ils s'y attendaient peut-être pas forcément.
Ouais, allez.
Écoute, voilà.
À d'autres, hein.
Une autre série aussi dans The Middle. The Middle, il y a la famille idéale qu'on peut s'imaginer, et puis il y a la famille qui existe véritablement, celle des Heck, qui est loin d'être idéale, et finalement ils font avec aussi. On a ensuite l'absence de sens aussi dans beaucoup de séries. Cette confrontation entre rêve et réalité mène à une absence de sens. C'est le cas dans Community, dans New Girl, dans Californication, dans Weeds, dans Lost, dans Heroes et dans The 4400, où à chaque fois, on ne sait pas trop où on va. Il n'y a pas vraiment de sens, de signification, de direction, toute donnée, toute tracée. Il n'y a pas non plus de bon et de mauvais. Et personne ne sait jamais véritablement si ce qu'il est en train de faire, c'est être du côté des bons ou des méchants. Et enfin, on a aussi l'absence de réalité partagée, par exemple dans The Affair, puisque même le simple fait d'avoir la même réalité, c'est pas le cas, puisque l'un et l'autre n'ont absolument pas la même vision de l'histoire qu'ils sont en train de vivre.
Et à mon avis, ça aussi, c'est un reflet de la réalité. Voilà, ok, ça fait déjà une longue liste, mais comme je t'avais dit, à mon avis, sur ce créneau-là, tu pouvais encore en citer beaucoup.
Probablement, oui.
Petite pause musicale avant d'aborder un autre aspect.
Oui, on va s'écouter The Troubles de U2, entendu dans The Walking Dead.
continue à vous instruire ce soir avec des sujets brûlants, les séries pragmatiques.
Oui, alors...
Là, il y en a peut-être un peu moins que précédemment, quoique...
Oui, donc... On a les séries qui confrontent les deux et dont une partie du propos au minimum c'est cette confrontation. On a aussi des séries qui prennent davantage parti soit pour l'un soit pour l'autre. Je vais commencer donc par celles qui prennent parti plutôt pour le point de vue pragmatique. Pour expliquer un petit peu ce que ça peut être le pragmatisme, c'est l'idée que il faut abandonner tous les idéaux parce qu'il n'y a, pas de vérité absolue, il n'existe pas de vérité. Donc au final, c'est uniquement en fonction des résultats que l'on a sur le terrain que l'on peut juger si une action est bonne ou mauvaise, mais on peut absolument pas juger ça à partir d'une sorte d'universel moral ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Une des séries qui représente le mieux ce point de vue pragmatique, c'est la série South Park, qui à travers une grande partie de ses épisodes en fait va critiquer tous les idéaux possibles et imaginables, justement en la confrontant à une vision plus pragmatique où finalement on ridiculise le fait d'idéaliser l'une ou l'autre chose pour en venir à une vision beaucoup plus concrète de au final à quoi ça nous mène, est-ce que c'est intéressant ou pas de suivre cette idée là à chaque fois c'est une idée différente. On peut aussi retrouver ça dans Kaamelott.
Ouais.
Pour une fois parler d'une série pas américaine, puisque dans Kaamelott aussi finalement on a l'idée que le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde devraient être des sortes d'archétypes totalement idéaux, etc. Et puis on se retrouve face à des gens qui au contraire sont des gens tout à fait normaux, ordinaires, qui ne comprennent pas trop ce qu'ils font là, surtout que au final il n'y a pas grand chose qui vient les aider, ils n'ont rien de d'idéal et donc ils ont un peu de mal à réussir à trouver du sens à leur quête à cause de ça.
Des gens bien normaux, ma foi.
Voilà.
On y est en plein.
C'est un petit peu l'expression de ça qu'on peut tous ressentir et qui est représentée par des séries comme ça. On va avoir aussi dans certaines séries vraiment le côté très négatif auquel peut mener ce pragmatisme, avec par exemple j'ai deux exemples, ce serait The Walking Dead et Southland, dans lesquels justement l'abandon des idéaux progressifs va mener quand même, on le voit, à une situation de déshumanisation des personnages dont il est question. Par contre, dans d'autres séries, ça se vit sur un mode beaucoup plus joyeux et ça se passe plutôt bien. Par exemple, dans Major Crimes ou dans You're the Worst, à chaque fois, on est face à des situations dans lesquelles l'idéal est mis de côté. Dans Major Crimes, l'idéal d'une justice qui serait très morale finalement et qui dirait celui-là est coupable donc on le condamne, etc. Et on passe plutôt à une justice dans laquelle si on arrive à obtenir un accord, ce sera plus pratique pour la collectivité parce que ça fera gagner de l'argent, etc. Et ça se passe plutôt bien dans cette série-là, ce point de vue-là. Et dans You're the Worst, l'idéal de deux personnes romantiques qui tombent amoureuses l'une de l'autre est totalement abandonné aussi. Et puis finalement, même si ça fait peur et même si les deux personnages en question sont totalement flippés, ça mène quand même à ce qui est une histoire d'amour qui se construise. Enfin, d'autres séries sont plus... Alors, on ne sait pas trop. C'est plus neutre, je vais dire. Notamment The Good Wife, The Americans... Et je mettrais aussi Dexter là-dedans. On a abandonné un petit peu les idéaux et on voit dans plusieurs moments de la série que les héros se retrouvent dans des situations où, ben, de fait, l'idéal a dû être abandonné d'un point de vue purement pratique. Ils ne pouvaient pas continuer à les suivre. Mais en même temps, ça n'est ni bien ni mal. On peut juste constater que c'est le choix qu'ils ont fait, quoi. Et puis, on en reste là sans jugement de valeur pour la suite, apparemment. Voilà.
Ouais, mais ils y sont tenus, hein, pour qu'on les apprécie un minimum, ces personnages aussi. Hein. Dexter, je sais pas moi, on nous explique pas un petit peu pourquoi et qui tue des méchants et tout. Enfin, tu vois, comment peux-tu t'attacher à un tueur en série, en gros, tu vois. Donc, ils y sont obligés de laisser un peu tomber le jugement de valeur là-dessus.
Oui, mais non, tu pourrais avoir l'idée selon laquelle c'est vraiment par principe qu'il tue des serial killers, que c'est, tu vois, c'est une,
ouais, mais même
une
ça,
mission
à la fin,
morale
est abandonné,
qu'il,
ouais,
qu'il s'est donné à lui-même. Or, c'est pas ça.
Non, non.
Il ne fait que suivre une marche à suivre que lui a donné son père pour pouvoir juguler ses pulsions meurtrières.
Ouais.
Donc, c'est très pragmatique dans cette vision-là, même si au final, mais ça le fait rentrer dans une sorte de position de super-héros, entre guillemets, puisque ça lui permet de débarrasser la ville des vilains. Mais bon, voilà.
Ok. Merci, Aurore, pour, comment dire, tout ce débat de haut vol. Tu nous instruis ce soir. Là, franchement, on n'est plus dans les détails de coiffure de Dawson, loin de là.
Mais qui te parle des détails de coiffure de Dawson?
Franchement, ce soir, on apprend des choses. On va continuer dans quelques minutes, juste après notre pause musicale habituelle.
Oui, cette fois-ci, il va s'agir de Eye Awake de Sarah Blasco, entendu dans The Good Wife.
World and all unseen. No one knows just why we're here. Embrace the doubt and face the fear. It's all about the endless search to be a hunter gatherer. I'm going out. Day. I'm going out to make a change. I've fallen down and gotten up. Been searching everywhere for love. I've let it go, welcomed it in. I wear the scars upon my skin. The struggle's real, the force is great. My heart is an adventurer. I'm going out.
La suite sur le générique d'Angel, pour ceux qui sont fans. L'optimisme.
Oui.
Vraiment, avec Angel. Il est optimiste, le gars.
Mais je vais t'expliquer.
Ah, mais
écoute,
oui, bah voilà, je suis curieux quand même, un minimum.
Donc, on a parlé des séries donc, qui avaient un propos plutôt de vouloir s'ancrer dans une sorte de réalisme pragmatique. Mm-hmm. Cette fois-ci, je vais parler des séries qui, elles, vont plutôt porter un message optimiste, voire parfois naïf, très optimiste, en poussant davantage à se dire allez-y, il faut y croire, et si vous y croyez suffisamment, mais ça marchera. Une des séries emblématiques pour représenter ce point de vue-là, c'est Once Upon a Time. C'est normal, c'est dans un univers de contes de fées.
Contes, légendes, oui.
Et de fait, tout le monde quelque part a droit à au bonheur et à réussir. Il suffit d'y croire et ça arrivera. Donc c'est un message sur, entre guillemets, la foi. Il faut avoir la foi dans la vie, et si vous y croyez, vous réussirez à faire ce que vous voulez.
C'est un chouette message, c'est vrai d'ailleurs.
Ben écoute, c'est pas... En tout cas, on peut se poser la question de... des résultats auxquels ça peut mener aussi, parce que c'est vrai que les gens qui sont réalistes ont tendance à dire non, il faut pas être naïf, etc. Mais au final, est-ce que le fait d'y croire et de foncer, etc., ça n'arrive pas aussi à faire tomber des portes auxquelles qu'on n'aurait pas réussi à faire tomber si on était resté dans un point de vue beaucoup plus terre à terre? On peut se poser la question. Donc voilà, en dehors de Once Upon a Time, on peut aussi citer deux séries teen, donc pour ados, qui portent aussi plutôt ce message-là, et qui, vis-à-vis de la jeunesse, est plutôt un message aussi intéressant à faire passer, puisque c'est plutôt rassurant. Il s'agit de One Tree Hill, dans lequel finalement chacun des ados réussit plus ou moins à réaliser ses rêves, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose de très optimiste, même s'il y a d'autres côtés plus noirs dans la série, mais ouais. Ici, voilà. Et Dawson aussi.
Mais oui.
Alors Dawson, étonnamment, parce qu'en fait tout le propos, toute l'opposition qu'il va y avoir durant toutes les saisons, ça va être arrête de rêver, arrête de vivre dans la fiction, etc. Tu dois être plus pragmatique, etc. Et puis au final, la conclusion de la fin de la série, ça va être mais finalement, faut arrêter d'angoisser, faut arrêter de vouloir absolument être trop réaliste. Ayez un petit peu confiance et vous verrez, tout se passera bien. Donc voilà.
Voilà.
D'autres séries aussi qui peuvent se mettre dans ce propos-là, c'est The Mindy Project, par exemple. La fille, elle a décidé de vivre une histoire d'amour et elle y arrivera. Parks and Recreation également. Il y a aussi un côté très volontariste. Unlighted, Eastbound and Down, Kenny Powers, lui aussi, il y croit et il y arrive.
Hein,
voilà. Alors, dans un autre sens ici, mais My Name is Earl aussi, on voit que les idées, et ici, il s'agit vraiment d'idéaux moraux, le fait de faire des bonnes actions, ça marche dans le cas de Earl. De l'importance d'y croire, on retrouve ce thème-là aussi dans des séries comme Lost, comme Oz, et aussi dans une autre série française qui s'appelle HeroCorp, dont on a parlé d'ailleurs il y a pas très longtemps, où on peut voir aussi se dessiner dans la suite, c'est-à-dire la saison 5 qui viendra, j'imagine, un jour, que le héros John finit par y croire à nouveau, il pourra réaliser ce qu'il désire. enfin, dans des séries plus qui ont plus un message presque de super-héros, donc des gens qui se sacrifient pour une cause, mais dans Persons of Interest, on a ça. On a une idée très désintéressée, très universelle aussi de la morale. Tout le monde a le droit à la vie et certaines personnes peuvent se sacrifier pour sauver la vie d'autres personnes. Mmh. Et on a ça aussi dans Angel, où surtout dans toute la saison 5, le propos, ça va être il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Si vous travaillez pour, ici il s'agit d'une société d'avocats malfaisants, mais si vous travaillez pour eux, ça risque de finir par vous atteindre. Donc il faut rester fidèle à ses idéaux, malgré tout, même si ça peut être plus efficace parfois de travailler avec les moyens d'une compagnie malfaisante, eh bien, il vaut mieux parfois rester plus intègre. Voilà. Enfin, je mettrai en opposition deux séries qui sont totalement à deux opposés, mais toujours un petit peu dans l'idéalisme, entre guillemets. D'un côté, on a The Newsroom, qui est vraiment l'idéalisme porté à son paroxysme, puisque il s'agit vraiment de représenter ce que serait une rédaction idéale d'un journal télévisé.
Un monde de l'information un peu parfait, ouais.
Voilà. Et puis d'un autre côté, mais tout aussi idéaliste, mais dans un sens beaucoup plus pervers, on va dire, on a Sons of Anarchy.
Oula.
Dans lequel on a aussi une vision de la morale très 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 fondée sur des principes comme ça, mais qui va mener là plus à la tragédie qu'autre chose.
Ouais, c'est un drôle d'optimisme dans ce cas.
Oui, c'est moins pour l'optimisme que pour les principes que ça met en œuvre.
Bon, on a beaucoup parlé. J'aurais voulu savoir ton avis sur Buffy, si ça rentrait un peu dans le cadre.
Ça rentre un petit peu dans le cadre, mais il faut avouer que dans Buffy, il y a tellement de thèmes, c'est tellement riche à interpréter que j'ai préféré le laisser de côté et de parler d'Angel, dans lequel ce thème-là est plus clair,
présent.
Surtout dans la saison 5.
Très bien. Allez, une petite pause musicale avant d'aborder la conclusion du jour.
Oui, il s'agit de Keep It Loose, Keep It Tight de Amos Lee, entendu dans Studio 60 on Sunset Street.
Well, I walked over the bridge into the city where I live, and I saw my old landlord. Well, we both said hello, there was nowhere else to go, 'cause his rent I couldn't afford. Well, relationships change, though I think it's kind of strange how money makes a man grow. Or some people, they claim if you get enough fame, you live over the rainbow. Over the rainbow. But the people on the street, out on buses or on feet, we all got the same blood flow. Oh, in society, every dollar got a deed. We all need a place where we can go and feel over the rainbow. But sometimes we forget what we got, who we are, oh, and who we are not. I think we got a chance to make it right. Keep it loose, keep it tight, keep it tight. I'm in love with a girl who's in love with the world, though I can't help but follow. Though I know someday she is bound to go away and stay over the rainbow. Gotta learn how to let her go over the rainbow. But sometimes we forget who we got, who they are or who they are not. There is so much more in love than black and white. Keep it loose, child. Gotta keep it tight. Keep it loose, child. Keep it tight. Keep it tight. Keep it.
Eh bien voilà, venu déjà le moment de presque se quitter avec une petite conclusion par rapport à cette belle émission parlée.
Alors donc, on peut en conclure que ben, le pragmatisme est quand même omniprésent dans les séries parce que ça permet de donner un côté plus réaliste, plus vraisemblable, plus sérieux à l'intrigue et donc de permettre aux téléspectateurs de mieux s'y retrouver. Ça permet aussi peut-être d'être plus complexe parfois. Mais ceci dit, on peut aussi parfois voir que défendre un pragmatisme de l'optimisme, ça peut aussi donner des résultats. L'idée que si on y croit, peut-être qu'on réussira plus de choses que si on n'y croit pas, se défend également. Dans Battle Creek, pour y revenir, eh bien, je trouve qu'on retrouve exactement cette question-là posée, c'est-à-dire que on a une opposition entre ces deux points de vue-là et on ne prend position ni pour l'un ni pour l'autre, et c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, ça permet de souligner aussi les aspects socioculturels de ces deux visions du monde, puisqu'on voit bien à quel point le réalisme de l'un est dû au manque de moyens et l'optimisme de l'autre est dû au fait qu'il a beaucoup plus de moyens. Voilà.
Merci Aurore pour ce partage de point de vue éclairé sur la question des séries télé. On se quitte. Sachez que toute l'actu de votre émission préférée se trouve via notre site internet, notamment www.seriefolie.be, série folie en un mot et avec un S à série. Et puis pour le reste, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, seriefolie.be. Le podcast sera disponible très bientôt. On se quitte en musique avec
Everything is In Its Right Place de Radiohead, entendu dans Lost.
Bah oui, tu aimes les Radiohead. À la semaine prochaine.
What was that you tried to say?